Vous écoutez On lit pour vous.
Paix et paix, un texte de Stéphane Laporte paru le 12 octobre 2025 dans la presse. Il ne l'a pas eu son prix Nobel de la paix. Ben bon, quoique. Non, choquez-vous pas, mais quand même. Avouez tout de même. Je sais. Durant des mois, on était outré par sa campagne d'autopromotion. Le père Teresa des USA, le Gandhi bien nourri des États-Unis. Il s'attribuait le mérite d'avoir réglé les conflits qui n'existaient pas ou qui s'étaient réglés sans lui. En plus, bien sûr, de déployer son armée dans son propre pays pour faire la guerre aux immigrants illégaux et aux démocrates trop légaux. D'entretenir un climat d'intimidation généralisée. Oser réclamer le prix Nobel de la paix quand on agit ainsi, c'est comme si Patrick Lane réclamait le trophée Selk, remis à l'attaquant excellent dans les aspects défensifs du jeu, par rapport. Et puis cette semaine, le plan du président américain pour régler la guerre dans la bande de Gaza a été accepté par Israël et le Hamas. Un cessez-le-feu est entré en vigueur, un miracle. Mais pour la candidature au Nobel du grand blond à la cravate rouge, il semble bien que ce soit non pas trop peu trop tard, mais énormément un peu tard. La récompense a été remise à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado pour ses efforts en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie. C'est très méritoire. Certains diront que le locataire de la Maison-Blanche fait aussi bien des efforts, mais pour l'inverse, une transition de la démocratie à la dictature. N'empêche, perdre le prix convoité le jour où, grâce à notre initiative, un vent d'espoir souffle sur cette terre aride du Proche-Orient, ça décoiffe. On ne pleurera pas pour lui. Et puis, si le problème se règle vraiment là-bas, il y aura toujours le prix Nobel de la paix 2026. Ça l'obligera à être un ange jusque-là. Maintenant, soyez francs. Connaissiez-vous Maria Corina Machado? Vous préférez garder le silence, c'est votre droit. Alors moi, je vais vous l'avouer, la seule matcha présente dans mon index cérébral, c'est Matcha Limonchik. J'avais lu à propos du combat au Venezuela d'une politicienne passionnée, mais pas au point de retenir son nom qui sonne comme une chanson. Pourtant, les noms des politiciens corrompus et dominateurs, je les connais par cœur. Cela est symptomatique de notre société où la haine est à la une. C'est l'essence même de la nouvelle. Il y a aujourd'hui des milliards et des milliards d'humains proches de leurs proches qui les écoutent, les encouragent, les aident, mais on n'entend parler que de ceux qui les blessent, les violentent ou les tuent. L'amour n'est pas une manchette, la haine, oui. La personnalité fait une publication sur les réseaux sociaux, une confidence, une photo. Elle reçoit des milliers de commentaires. Plusieurs centaines qui l'apprécient, une dizaine à peine qui l'insultent, sur lesquels va-t-elle s'attarder? Quels commentaires vont sortir du lot? Quels commentaires deviendront viraux? Les plus salauds, les plus brutaux, les gentils, les respectueux, les bienveillants, on les trouve ennuyants. On les lit en bâillant. Mais les propos haineux, scabreux, violents, ils nous réveillent. Ils nous percutent, que l'on soit la personne visée ou une personne éloignée. Un bonjour, faudra donner un prix Nobel aux fins. À ceux dont on ne parle jamais, jamais. Que l'on tient pour acquis, mais sans qui ce serait encore plus le bordel ici. Si les réseaux sociaux semblent être un incubateur de haine, c'est parce qu'on ne cesse de souligner les messages les plus virulents. Quand va-t-on apprendre à les ignorer? Toutes ces têtes d'œufs qui cassent du sucre sur leur prochain, cessons de les prioriser, de les mettre de l'avant-plan. La haine attire la haine. Plus on lui consacre du temps, plus elle nous en prend. Si on veut la paix, il faudrait parler plus souvent de ceux qui la font, de ceux qui la vivent. La paix, ce n'est pas seulement la fin d'une guerre. La paix, ça peut être le début de tout et ce qui suit. Si tu veux la paix, ne prépare pas la guerre, sois en paix. Ça fait des millénaires que le monde était paix, au lieu d'être en paix. Paix et paix. On a tous en nous le pouvoir de la faire, même celui de qui on s'y attend le moins. Bien sûr, on n'a pas tous les pouvoirs de régler les conflits internationaux, mais on a tous le pouvoir de régler nos conflits avec les gens qui nous entourent. C'est déjà ça de prix. Ça ne nous donnera pas le prix Nobel, mais ça va nous donner un prix bien plus précieux, la paix de l'âme. C'était « Paix et paix », un texte de Stéphane Laporte, paru le 12 octobre 2025 dans la presse.
Pour les jeunes issus de milieux défavorisés, le soutien social a ses limites. Un texte de Gisèle Sophia Anne, Elisabeth Olivier, Marina Borisova et Véronique Dupéré, paru le 14 octobre 2025 dans La Conversation. Passer du temps avec ses proches devrait rendre heureux. Mais pour beaucoup de jeunes adultes issus de milieux défavorisés, les relations familiales, amicales ou amoureuses peuvent être à double tranchant. Autant de soutien que de stress et parfois plus de pression que de réconfort. Des décennies de recherches sur le bonheur montrent une chose claire. Le secret d'une vie longue et heureuse tient à la qualité de nos liens sociaux. Passer du temps de qualité avec des proches apporte joie et légèreté. Face aux aléas de la vie, ces relations constituent une source de soutien, de force et de réconfort. Pourtant, certaines relations peuvent peser et devenir une obligation, voire une source de stress et de frustration. Le soutien social, qu'il soit psychologique, empathie, ou concret, aide financière, peut améliorer notre santé et notre bien-être. À l'inverse, le stress social, soit la charge psychologique ressentie quand on se sent dépassé par les demandes d'un proche, peut peser sur le bien-être car nous sommes particulièrement sensibles aux expériences négatives. Le stress social est particulièrement présent chez les jeunes adultes. Un parent critique, un ami envahissant ou un partenaire jaloux peut provoquer des tensions quasi quotidiennes. Ces jeunes doivent progressivement apprendre à devenir eux-mêmes source de soutien tout en naviguant des transitions multiples dans leurs études, leur travail et leur vie personnelle. En tant que chercheuse postdoctorale, mes travaux portent sur cette transition et sur la manière dont les contextes sociaux et éducatifs peuvent faciliter ou entraver ce passage. Une étude sur 4 ans. Pour mieux comprendre le rôle des relations sociales pendant cette transition vers l'âge adulte, nous avons mené une étude auprès de 384 jeunes adultes principalement issus de milieux défavorisés, recrutés alors qu'ils étaient encore au secondaire. Nous avons suivi leurs relations familiales, amicales et amoureuses sur 4 ans pour examiner comment ces liens influencent leur bien-être et leurs symptômes dépressifs. Au début de la vingtaine, les participants ont été interrogés sur le soutien ou le stress que leurs relations leur apportaient, puis, 4 ans plus tard, ils ont également rapporté leur niveau d'épanouissement. Notre étude a mis en évidence 4 constats principaux. Premièrement, chez ces jeunes issus de milieux défavorisés, les relations sociales stressantes sont répandues bien davantage que chez les adultes en général. Plus de la moitié des participants de notre étude vivaient des relations familiales éprouvantes. Un groupe disposait d'un soutien très limité, tandis qu'un autre vivait des relations à double tranchant, à la fois soutenante et stressante, avec leur famille et leurs partenaires. Deuxièmement, la qualité des relations familiales avait tendance à se reproduire dans les relations amoureuses, illustrant un effet cascade. Ceux qui bénéficient de relations de haute qualité en développent davantage, tandis que les plus jeunes, plus éprouvés sur le plan relationnel, tendent à le rester. Troisièmement, bénéficier de davantage de sources de soutien social se traduit par un meilleur bien-être chez les jeunes dont les relations n'étaient pas empreintes de stress, confirmant un modèle additif. Plus de soutien égale mieux-être. Plus précisément, les jeunes entrant dans la vingtaine tout en étant dans une relation amoureuse soutenante présentaient moins de symptômes dépressifs et un plus grand épanouissement. À l'inverse, pour le stress social, un modèle de seuil s'applique. Lorsqu'un certain niveau de stress est atteint, un apport supplémentaire de soutien ou de stress exerce une influence minime sur le bien-être. Quatrièmement, contrairement au modèle tampon qui aurait pu être anticipé, la présence d'un soutien de la part du partenaire romantique ne suffit pas à compenser les effets du stress relationnel d'autres sources. De plus, le soutien social ne semble pas constituer une protection efficace contre les épreuves de la vie, telles que les problèmes financiers. En effet, lorsque ces défis surgissent, les avantages découlant de liens positifs ont tendance à s'estomper. Accompagner les jeunes et agir contre la précarité. Ces résultats montrent que le stress social est très répandu chez les jeunes adultes, surtout lorsque leur milieu d'origine est moins favorisé. Ces jeunes font souvent face à des obstacles disproportionnés pour accéder à une source importante de bien-être, les relations de qualité. Même quand ces jeunes ont de bonnes relations, pour en profiter pleinement, il faut aussi pouvoir réduire l'impact des mauvaises. Un accompagnement efficace repose sur deux volets. Renforcer les réseaux de soutien tout en allégeant le poids des facteurs qui peuvent mettre à l'épreuve les relations, comme le stress économique. Pour les jeunes vivant des relations difficiles à la maison, les acteurs communautaires en dehors du foyer familial, école, service public, ont un rôle crucial à jouer. Ils peuvent leur offrir des expériences sociales enrichissantes et des occasions de développer de solides compétences interpersonnelles qui constituent des ressources internes dont les jeunes ont besoin pour établir des relations saines à l'âge adulte. Par exemple, certaines écoles, universités et organismes communautaires, comme Entraide Jeunesse Québec ou l'UQAM avec son projet Étincelle, propose des programmes qui visent à prévenir la violence dans les relations amoureuses et à favoriser des relations saines. Grâce à des ateliers, des formations pour le personnel scolaire, des vidéos destinées aux adultes et à la participation de jeunes ambassadeurs, ces initiatives permettent aux adolescents de développer des compétences socio-émotionnelles essentielles : communication, gestion des conflits et des ruptures amoureuses. Déployés à large échelle, ces programmes peuvent aider à construire un bassin de jeunes mieux équipés pour construire des relations saines pour eux-mêmes et pour les autres. Multiplier ce genre d'initiative est essentiel. Les difficultés financières, source de stress. Au-delà des relations sociales, un autre enjeu mérite une attention particulière lors de la transition vers l'âge adulte, les difficultés économiques. Notre étude montre qu'elles nuisent au bien-être des jeunes, y compris chez ceux qui bénéficient globalement du soutien de leurs proches. Dans un contexte du marché du travail instable et de coûts de la vie en hausse vertigineuse, les crises de logement et les difficultés financières constituent une source majeure de stress pour les jeunes et peuvent, si elles ne sont pas bien gérées, les plonger dans la précarité. Ce risque est d'autant plus immédiat pour les jeunes qui entrent dans l'âge adulte sans filet familial ni atout éducatif, facilitant cette transition. Pour mieux accompagner les jeunes dans cette étape exigeante, il est temps que les familles, écoles, employeurs et services publics unissent leurs efforts afin d'améliorer les conditions de vie de tous les jeunes. C'était « Pour les jeunes issus de milieux défavorisés », Le soutien social a ses limites. Un texte de Gisèle Sophia Anne, Elisabeth Olivier, Marina Borisova et Véronique Dupéré, paru le 14 octobre 2025 dans La Conversation.
Le truc du 1% pour dépenser sans stresser. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 7 septembre 2025 dans la presse. Marc, un lecteur, m'a écrit l'autre jour avec une question intéressante. Comment ne pas culpabiliser en dépensant de l'argent quand nos objectifs d'épargne annuelle sont atteints? Demande-t-il. Marc dit avoir le réflexe d'épargner davantage par peur de manquer d'argent. Or, je n'en manquerai probablement pas, puisque je vais avoir droit à un fonds de pension gouvernemental en plus de mes épargnes personnelles. Et mon train de vie est simple et peu élevé. Je pense que plusieurs lecteurs de cette rubrique se reconnaîtront dans cette question. Les gens occupés à dépenser ne se rendent généralement pas ici,
même si j'essaie de les attirer avec mes titres aguicheurs et mes séduisantes explications de la puissance sans limite des intérêts composés, à prononcer avec la voix rocailleuse d'une pub de Dodge Ram. Dans le fond, ce que Marc demande, c'est « Comment sortir de ma zone de confort ?» Revenons donc à l'essentiel. Pourquoi épargne-t-on? Personnellement, c'est par désir de gagner en indépendance, d'avoir davantage de contrôle sur ma vie. Comme le disait le milliardaire Charlie Munger, partenaire d'affaires de Warren Buffett, je n'avais pas l'intention de devenir riche. Je voulais devenir indépendant. J'ai simplement dépassé la cible. Vous aussi, Marc, vous dépassez la cible. Et une fois qu'on a dépassé la cible, on fait quoi? On arrête de stresser et on apprend à dépenser. Le truc du 1%. Le blocage qui nous empêche de dépenser est souvent psychologique. Donc, la solution est psychologique également. Une approche qui m'aide à dépenser sans paniquer est le truc du 1%. On commence par calculer sa valeur nette. Les actifs moins les dettes. Placement non enregistré, REER, CELI, équité dans la maison, tout entre dans ce calcul. Ensuite, on calcule 1% de cette somme. Pour une personne qui a 25 000 $ de côté, le 1% est 250 $. Pour quelqu'un qui a 250 000 $, on parle de 2500 $. Si on hésite à faire une dépense inhabituelle, ou alors si on doit payer pour un imprévu, on compare la somme dépensée avec le 1%. Si elle est inférieure, ça ne sert à rien de s'en faire. Ça permet de garder les choses en perspective et d'arrêter de stresser pour des dépenses qui, ultimement, sont dans la marge d'erreur de nos finances. Je ne dis pas de dépenser 1% de notre valeur nette toutes les semaines. Ce serait une belle façon de perdre le contrôle de nos finances. Seulement, de ne pas être inutilement sévère envers soi-même lorsque de l'argent quitte notre compte bancaire. Maintenant qu'on a donné à Marc le feu vert pour dépenser, vient la question plus intéressante encore, comment dépenser notre argent? On croit souvent que cette question est purement subjective. Marie aime aller au Carrefour Laval. Olivier veut changer de voiture. Jacques aime le bon vin, etc. Pourtant, la science se penche depuis longtemps sur la question et les résultats sont parfois contre-intuitifs. Une étude publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology en 2020 a montré que les gens tiraient davantage de satisfaction des expériences, voyages, divertissements, activités de plein air, etc., que des achats matériels, vêtements, bijoux, meubles, gadgets. Et c'est vrai, tant dans le moment que lorsque les gens étaient questionnés après coup. Donc, dépenser pour un voyage en famille donnera plus de plaisir et de meilleurs souvenirs que dépenser pour rouler dans une voiture de l'année à laquelle on finit par s'habituer et cesser de porter beaucoup d'attention. Dans son livre « Balance, Investing and Spending for Happiness and Wealth », que je vous recommande, l'auteur canadien Andrew Hallam note aussi que dépenser pour les autres nous procure plus de bonheur que de dépenser pour soi-même. Dans une expérience publiée par l'Association américaine de psychologie, des chercheurs ont donné des enveloppes contenant 5 ou 20 $ à des participants. Ceux-ci avaient pour mission de dépenser l'argent avant 17 heures le jour même. Mais il y avait une consigne. La moitié devait dépenser l'argent pour se faire plaisir, tandis que l'autre moitié devait dépenser l'argent pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Lorsque les chercheurs ont contacté les participants à 17 heures, ils leur ont demandé de leur donner leur niveau de bonheur. Ceux qui avaient dépensé l'argent pour quelqu'un d'autre ont rapporté avoir un niveau de bonheur plus élevé, écrit Hallam. Dans son livre, Andrew Hallam raconte avoir plusieurs fois payé secrètement l'addition d'un client ou d'un couple durant l'heure du lunch au restaurant. Pas pour être un saint. Juste pour rigoler avec un ami, ils aimaient voir le visage des gens lorsque le serveur leur annonçait que quelqu'un avait payé leur repas. Jamais ils ne soupçonnaient que ça venait de lui. J'ai fait plein de trucs drôles dans ma vie, et j'en ai oublié la plupart, écrit-il. Mais je me souviens presque de chaque fois où j'ai anonymement payé pour quelqu'un au restaurant. Voilà, Marc, des idées pour dépenser. Vous me ferez part de vos progrès, ou de l'absence de progrès. On pourra se mettre à plusieurs pour vous aider à faire pleuvoir l'argent. C'était le truc du 1% pour dépenser sans stresser, un texte de Nicolas Bérubé, paru le 7 septembre 2025 dans la presse.
Renouveau francophone au cœur de l'île de Vancouver, un texte de Martin Bouchard, paru le 31 octobre 2025 dans le journal de La Source, le de CTHE. Pour François Clavel, président du conseil d'administration de l'AFCI, l'engagement communautaire relève d'un devoir de transmission. Citation : En tant qu'aîné, fier de sa culture, je me sens obligé de partager et transmettre la francophonie. L'association couvre un territoire incluant la vallée de Comox, dont Cumberland, Comox et Kootenay, ainsi que Campbell River. Un vaste périmètre qui représente un grand défi de partage, essentiel à notre survie. Fin de citation. Autre citation, nous sommes en situation minoritaire, mais nous offrons des occasions de rencontres, des repas communautaires et des activités culturelles. Notre but est de rassembler les gens, explique Nadir Amou, directeur général de l'AFCI. C'est l'Association francophone du centre de l'île, fondée en 1978, qui fait vivre la langue française et la culture francophone à Campbell River et dans la vallée de Comox. Seul organisme francophone du centre de l'île de Vancouver, il demeure un carrefour pour les francophones qui souhaitent vivre en français. Des défis bien réels. La communauté francophone du centre de l'île de Vancouver fait face à plusieurs obstacles, manque d'accès aux médias francophones, dispersion des membres et vieillissement de la population. François Clavel résume la situation ainsi. Citation, « Nous vivons dans un désert d'informations francophones avec très peu d'accès à toute forme de médias, y compris Radio-Canada, accessible seulement en ligne. Nous sommes aussi très dispersés, ce qui complique les rencontres. » Fin de citation. Il évoque aussi un sentiment d'isolement et une intégration difficile des nouveaux arrivants. Citation. « Nous sentons un manque d'inclusion en Colombie-Britannique, mais aussi auprès des organismes provinciaux, du fait de la distance et des spécificités de notre population. Le vieillissement entraîne une moins bonne maîtrise des nouvelles technologies et un besoin d'activités adaptées. Et l'intégration des immigrants dans notre communauté francophone diversifiée nécessite des efforts accrus, malgré des ressources limitées. » Fin de citation. Une communauté en mouvement. Pour Nadir Amou, ce vieillissement s'accompagne d'un besoin de relève. Citation. Beaucoup de jeunes ont quitté la région, mais nous retrouvons aujourd'hui des familles francophones grâce à l'immigration. Fin de citation. Cette diversité se reflète dans la composition des membres. Retraités de partout, famille venue de l'Alberta ou du reste du Canada, nouveaux arrivants du Maghreb ou du Liban et couples exogames. Citation, c'est une communauté très variée et c'est aussi ce qui fait sa richesse, dit-il, fin de citation. L'association francophone du centre de l'île de Vancouver mise sur les traditions communautaires tout en modernisant son offre. Citation, nous célébrons la culture francophone par des repas de Noël, des rencontres et des concerts. Mais nous offrons avant tout un espace où l'on vit en français, résume le directeur général, fin de citation. Pour combler le manque d'accès à la culture francophone, il a lancé un ciné-club qui présente chaque mois un film en français, peu importe son origine. Citation, le cinéma est un excellent moyen de découvrir la francophonie sous toutes ses formes. C'est aussi un prétexte pour se retrouver. Fin de citation, ajoute-t-il. L'association numérise également ses archives pour préserver la mémoire collective. Toutes ces initiatives renforcent les liens entre générations. L'association francophone du centre de l'île de Vancouver demeure toutefois fragile, notamment en raison du mouvement constant de ses membres. Citation, nous sommes dépendants des politiques d'intégration liées à la base militaire de Comox qui connaît un roulement régulier, souligne François Clavel, fin de citation. Regardez vers l'avenir. Pour la direction, l'avenir passe par l'adaptation et la collaboration. Citation, nous devons ajuster notre offre aux réalités actuelles. Nous n'avons plus les moyens d'assumer un rôle éducatif comme autrefois, mais nous pouvons continuer à renforcer les liens entre membres, estime Nadir Amou, fin de citation. François Clavel partage cette vision. Citation, à Campbell River, nous avons été choyés par nos prédécesseurs qui nous ont légué des installations permettant d'offrir des services adéquats. Mais dans la vallée de Comox, l'association précédente a cessé ses activités il y a plus de 10 ans. Nous devons reprendre sa mission, renouer les ponts et rebâtir les fondations sur lesquelles s'appuient nos actions. Fin de citation. Malgré les défis, la direction garde le cap sur l'espoir. Pour Nadir Amou, citation, il s'agit avant tout de rassembler des francophones venus d'horizons très différents, mais unis par le même désir de vivre leur culture. Fin de citation. C'était Renouveau francophone au cœur de l'île de Vancouver, un texte de Martin Bouchard paru le 31 octobre 2025 dans le journal La Source.